Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et c'est Aude Vernuccio qui vous informe en ce vendredi soir. Bonsoir Aude.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, le mari de Delphine Jubillar, mis en examen et écroué.
Soupçonné d'avoir tué sa femme dans la nuit du 15 au 16 décembre, il conteste toute implication. La France revient à une vie presque normale. À Moscou, en revanche, les Russes affrontent une nouvelle vague de Covid assez coriace. Et puis ça vous dit de devenir astronaute. L'agence spatiale européenne recrute jusqu'à minuit.
À la fin du journal, la météo complète avec Céline D'Acosta et attention au retour des orages.
RTL Soir.
Cédric Jubillar, mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, est placé en détention. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine la nuit du 15 décembre. C'est ce soir-là qu'a disparu l'infirmière de 33 ans dans le Tarn. Patrick Tégéreau, le procureur, s'est exprimé. Il évoque les déclarations mensongères du principal suspect.
Oui, et surtout à propos de l'ambiance de la séparation. Cédric Jubillar a toujours affirmé que cela se passait bien, mais des témoignages dénoncent ses colères et parfois ses violences à l'égard de sa femme. Il y a aussi le déni de l'existence de l'amant. Il le savait, mais il ne l'a confirmé que lors de sa garde à vue. Dominique Alzéhari, le procureur de Toulouse, a mis en avant le travail spectaculaire des enquêteurs.
Le lundi 15, il y a encore eu des éléments très importants qui ont été reçus par les enquêteurs et qui ont provoqué justement ces éléments. Parce qu'en fait, toutes les investigations par la négative, cette idée de fermer les portes, de mettre hors de cause telle ou telle personne, tel ou tel témoignage, telle ou telle situation, bien ça se fait au jour le jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2500 actes. Et c'est pas fini.
Oui, car les gendarmes n'ont encore aucun élément sur le sort de Delphine Jubillar. L'avocat de Cédric, maître Jean-Baptiste Allary, s'étonne de la méthode des enquêteurs.
Je pensais plutôt que les enquêteurs auraient travaillé de manière positive, c'est-à-dire à la recherche de preuves. Et de ces preuves, on construit un raisonnement. Là, on part d'un raisonnement et on essaie de le démonter. C'est lorsqu'on considère qu'il y a un raisonnement et qu'on veut à tout prix que toutes les preuves collent à ce raisonnement, c'est le premier pas vers l'erreur judiciaire.
Tout à l'heure, épuisé, Cédric Jubillar a été conduit à la maison d'arrêt de Saïs, dans la banlieue de Toulouse.
Patrick Tégéreau à Toulouse pour RTL. Le procès de Nordal Lelandais dans l'affaire Maëlys aura lieu du 31 janvier 2022 au 11 février devant les assises de l'Isère. L'ancien militaire sera jugé pour enlèvement, séquestration et meurtre de l'enfant en 2017. C'était à Pont de Beauvoisin.
Et puis deux ans après la mort tragique de Steve Maya Canisso à Nantes, eh bien son téléphone a parlé.
Le jeune homme sera bien tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique au moment où les policiers dispersaient la foule à coups de gaz lacrymogène. Son téléphone a borné à cet instant-là. Le procureur va convoquer en juillet plusieurs personnes dont la maire de Nantes et deux policiers. Pour l'avocate de la famille de Steve, Cécile De Oliveira, le lien entre l'intervention de police et la chute du jeune homme ne fait aucun doute.
L'intervention policière a démarré à 4h24. La chute de Steve Maya Canisso s'est produite à 4h33 dans la Loire. On a donc un lien de causalité direct entre la chute et l'intervention policière. La famille de Steve Maya Canisso est évidemment très soulagée que cette expertise technique vienne conforter la conviction qui était la leur. Les convocations du juge d'instruction vont permettre, je le souhaite, au cours de l'été, des mises en examen. Pour les proches de Steve Maya Canisso, le temps est extrêmement long et la perspective d'un procès à plusieurs années les bouleverse.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
Aude, plus que deux jours avant le premier tour des élections régionales et départementales, c'est ce dimanche.
Et les bureaux de vote se préparent avec un protocole sanitaire précis, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition et distance d'1,50 m entre les électeurs. À Oisy dans le Nord, la salle polyvalente trop petite ne faisait pas l'affaire. Le vote aura donc lieu sous la halle du village en plein air, Franck Hanson.
Face à l'église du village, sous la halle couverte qui sert habituellement pour le marché ou d'autres festivités locales. Des agents montent des isoloirs en bois et installent les tables. C'est ici que le bureau de vote est aménagé avec l'accord du sous-préfet. Plus pratique selon Jacques Langlemet, le premier adjoint à Oisy.
C'est notre salle des fêtes à nous.
Donc les gens ici rentreront au départemental. Ouais.
Le contrôle des identités avec les bulletins. Mmh. On passera aux urnes. Ouais. C'est couvert. Comme vous le voyez, on a des rideaux de sécurité sur le côté.
Est-ce que les gens seront obligés de mettre le masque ou pas? Non, comme c'est
en extérieur. Bon, s'il y a vraiment du monde, mais vous savez, il y a 500 votants. Dans le petit bureau de vote, de l'autre côté, 35 mètres carrés, ouais. C'était pas possible.
Et les habitants saluent l'initiative qu'ils jugent plutôt conviviale.
Ça nous rassure. De toute façon, on sera toujours à l'abri. Les gens, compris qu'ils ont voté, on peut continuer à discuter.
C'est un village où il y a beaucoup de
convivialité. On va pouvoir s'approcher davantage des gens. C'est pas une mauvaise idée. Si ça a été bien structuré, bien préparé, peut-être demanderons-nous de renouveler cette première.
Dans cette commune du Valenciennois, on a plutôt l'esprit civique. Plus de 70% de votants l'an dernier au municipal, en pleine pandémie.
Franck Hanson à Oisy dans le Nord pour RTL. Les derniers indicateurs de l'épidémie toujours très encourageants. Environ 10 700 personnes hospitalisées et 1740 patients en réanimation. Ce soir, c'est du jamais vu depuis le début du mois d'octobre. Santé publique France déplore encore en revanche 50 décès liés au Covid ces dernières 24 heures.
La Russie, elle, affronte une nouvelle vague virulente à cause du variant Delta.
Flambée à Moscou avec près de 10 000 nouveaux cas de Covid quotidiens uniquement dans la capitale. Près de 90% des malades ont été contaminés par le variant venu d'Inde. La ville est forcée de se reconfiner partiellement, Félix Grasso.
À Moscou, la vie nocturne s'est affadie. Pour une semaine encore, les bars, clubs et restaurants doivent fermer entre 23h et 6h du matin. Les fan zones de l'Eurofoot ferment dès aujourd'hui. Mais une décision suscite des remous. L'obligation de se faire vacciner d'ici la mi-juillet pour au moins 60% des travailleurs qui sont au contact de la clientèle. À défaut, ils ne seront plus payés. Valentina, gérante d'un pub du centre-ville, nous fait part de son mécontentement.
Je crois que chacun devrait pouvoir choisir. Forcer les gens à le faire, ce n'est pas très bien, pour rester poli.
La municipalité invoque l'apparition de nouvelles souches, plus contagieuses et plus agressives, qui ont complètement chamboulé les prévisions du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin.
Nous ne nous attendions pas à une hausse, mais à une diminution du nombre de malades. Pour cette raison, la situation d'aujourd'hui est différente et elle nécessite des mesures différentes.
À ce jour et depuis le début de la campagne de vaccination, entamée en décembre dernier, seuls 20 des 145 millions de Russes auraient été vaccinés.
Félix Grasso, correspondant d'RTL à Moscou.
19h06, vous restez là. Dans un instant, on vous parle de l'Euro de football, évidemment, avec les Bleus qui vont tenter demain de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal d'Aude Vernuccio à 19h08. Le football J-1 avant le match Hongrie-France.
Et les Bleus vont tenter de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro. Le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas mentionné de modification pour l'instant sur la composition de l'équipe. Il est revenu en revanche sur l'horaire particulier du match, coup d'envoi à 15h.
On est passé à des entraînements à 15h pour se caler évidemment à l'horaire du match, que ce soit l'heure du déjeuner. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est pour les joueurs avoir des heures de sommeil, comme c'est toujours un peu, je ne vais pas dire la bataille, mais voilà, c'est une génération qui a tendance à se coucher un peu tard, de faire en sorte de bien réguler ça, parce que quand on joue le soir, il y a toujours l'après-midi, la sieste qui peut être un peu récupératrice. Donc évidemment, depuis le match à Munich, dès le lendemain, on a fait en sorte de se caler et d'habituer le corps et la tête à ce qui va nous attendre demain.
Didier Deschamps au micro de Nicolas Georgerot. Les résultats du jour, la Suède s'est imposée 1-0 face à la Slovaquie. En match en cours, la Croatie affronte la République tchèque, score de 1-1. À suivre ce soir à 21h, Angleterre, Écosse, et rendez-vous dès 20h45 dans RTL Foot, présenté par Eric Silvestre.
Tiens, dans la série des bonnes nouvelles, on a appris tout à l'heure que l'international danois Christian Eriksen, qui est sorti de l'hôpital de Copenhague après une opération réussie 6 jours après son arrêt cardiaque en plein match de 7 euros. Il a même pu rendre visite à ses équipiers au camp d'entraînement danois.
Et je rectifie, c'est 20h RTL Foot évidemment, puisqu'on est vendredi. On passe au rugby ce soir avec la première demi-finale du top 14, La Rochelle face au Racing 92. Ça se passe à Lille et l'ambiance commence à monter. Antoine Decarne, vous êtes devant le stade Pierre Mauroy.
Oui, les supporters des deux clubs commencent à arriver ici. Il y aura 5000 spectateurs ce soir au stade Pierre Mauroy. 900 supporters rochelais, 900 supporters franciliens ont fait le déplacement. François, supporter des Maritimes, a tout fait pour être là aujourd'hui.
Déjà hier, on est allé se faire tester pour pouvoir entrer au stade. On a pris la voiture ce matin à 6h de La Rochelle. On a essayé de donner beaucoup de voix pour que nos sportifs rochelais remportent cette demi-finale et puissent aller en finale contre le vainqueur de demain.
La Ligue de rugby avait déjà vendu 25 000 billets, espérant une dérogation qui n'a pas été accordée. Les supporters présents ce soir se sentent donc chanceux.
On avait peu de chances d'être élus. On va donner de la voix.
Se retrouver, faire la fête et puis boire un coup.
Ils espèrent assister à une belle affiche.
Alors le Stade Rochelet, un pack d'enfer qui mange tous les adversaires. Le Racing, c'est les Galactiques. Derrière, c'est presque les trois quarts de l'équipe de France. Le cœur va être malade.
Ce sera donc un duel 5 étoiles ce soir entre La Rochelle et le Racing, respectivement 2e et 3e de la saison régulière pour cette première demi-finale de Top 14.
Antoine Decarne à Lille pour RTL, coup d'envoi à 20h45. Demain, 2e demi-finale, ce sera Toulouse-Bordeaux-Bègles. Et puis c'est un concours qui fait rêver. Plus que quelques heures pour postuler auprès de l'Agence spatiale européenne. 4 à 5 astronautes seront recrutés. La dernière promotion remonte à 2008. Et parmi les heureux élus, il y avait un certain Thomas Pesquet. Laura Jourdan, biologiste, est candidate et compte bien lui emboîter le pas, Sophie Jousselin.
Et pourtant, l'espace pour Laura n'est pas un rêve d'enfant.
Vous savez, je suis née à la fin des années 80 et je pense qu'à cette époque-là, il y avait aussi un peu un déclin dans le domaine du spatial. Le premier homme sur la Lune, c'était bien avant ma naissance. Et du coup, c'était pas l'univers qui peuplait mon enfance.
Biologiste de formation, exploratrice et guide dans les régions polaires, Laura en est sûre, son expérience professionnelle l'a préparée à l'espace.
Oui, je pense qu'il y a des similitudes. J'ai travaillé sur une base un peu d'isolement au Svalbard, donc l'archipel reculé de la Norvège. J'y suis restée plusieurs mois en compagnie de collègues norvégiens, russes. Et donc j'ai l'expérience de l'isolement sur une terre extrême.
À 32 ans, Laura est de la génération des astronautes qui iront sur la Lune. Elle est prête à y poser le pied.
Parfois, je suis arrivée sur des glaciers ou sur la banquise, là où je ne pensais jamais que j'irais un jour. Je me suis retrouvée dans l'eau glaciale de l'Antarctique à regarder les manchots sous l'eau. J'ai vécu tellement de choses qui me semblaient impossibles de prime abord que je me dis pourquoi pas la Lune, franchement.
Et la jeune femme met tous les atouts de son côté. Elle fait de la plongée, apprend le russe et prend des cours de pilotage.
Rien que ça. Explication de Sophie Jousselin. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à minuit. On y va, Stéphane.
Pourquoi pas. Aude-Vernucci revient à 20h, vous informer tout à l'heure. Le ciel, Céline.
Oui.
Orage au désespoir.
Non, c'est beau. Vous êtes poète. Et ouais. Ça, c'est pour ce week-end, les orages. Ça démarre demain sur l'ouest. Des orages potentiellement forts, surtout en soirée sur la région parisienne et l'Hauts-de-France. Ça va démarrer sur toute la façade atlantique dès le matin et gagner toute la moitié ouest dans l'après-midi. Ces orages vont ensuite se décaler vers l'est dimanche. Ils pourraient là aussi être localement forts avec de la grêle, de fortes rafales de vent, des averses soutenues. Ceux qui n'auront pas d'orage auront un soleil voilé, un ciel nuageux et parfois une averse, le tout sous des températures encore chaudes sur l'est du pays. 35 degrés demain à Lyon et Grenoble, 34 encore à Clermont-Ferrand et Mulhouse. Pour les autres, la moyenne ira de 23 à 29 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée avec 31 à Toulon, beaucoup moins près de la Manche avec seulement 19 degrés à Cherbourg. Ça a déjà bien baissé après le passage des orages sur l'ouest. On le constate, ça baissera aussi dimanche sur la partie est où on reviendra à des températures plus respirables. Alors patience.
Patience, c'est le mot du soir de Céline Dacosta. Bon week-end à vous, Céline.
Merci.
19h13, toute l'équipe de Ondes et Fait le Monde va s'installer tranquillement en studio avec Cyprien, Marie.
Ils sont
bruyants.
Brice. Tranquillement, c'est pas le mot. Hein.
Ouais, non, c'est Brice du génie, vous savez. Tout en douceur, dit, comme
c'est
d'habitude.
C'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine.
J'apporte le texte, personne ne le fait.
On défait le monde, c'est juste après
à
ça.
À tout de suite.
RTL Soir.